Actu SF, les podcasts.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce café littéraire consacré, alors qui sera beaucoup plus centré sur peut-être sur l'histoire que d'autres cafés littéraires de la journée. Donc, il s'intitule De l'histoire dans mon roman, raconter le passé, penser le présent. Alors, je vais d'abord présenter nos auteurs. Donc, nous avons Delia Sherman. Alors, Delia est américaine, agrégée d'histoire. Elle a commencé à enseigner avant de se rendre compte qu'elle préférait travailler dans l'édition et surtout écrire. Elle est très fortement imprégnée de ses études en histoire et elle aime bien se jouer des époques. Et puis, évidemment, ses œuvres vont osciller entre des ouvrages destinés à la littérature jeunesse et des romans pour adultes appartenant à un genre spécifique de la fantasy. Vous nous en parlerez peut-être, Delia, qui est la Fantasy of Manners, un mélange de fantasy et de comédie de mœurs. Voilà. Son second roman en 1993, qui s'intitule The Porcelain Dove, alors pardon pour mon accent, hein, est un conte de fées, par exemple. Et puis en 2011, nous avons Le Labyrinthe de la Liberté, qui est, je dirais que c'est un roman qui se passe donc juste avant le début de la guerre civile aux États-Unis, hein, dans les années 60, c'est ça, si je ne me trompe pas. Et puis elle va publier en 2015 son premier recueil donc, de nouvelles, c'est Young Woman in a Garden, c'est ça ? Voilà, je crois que j'ai rien oublié. Si vous avez obtenu quand même en 2012 trois importants prix littéraires américains, Mytho Poétique, André Norton et Prometheus. Voilà. Thomas D., de son vrai nom Gilles Dumay, est un écrivain de science-fiction et fantasy français. Si j'évoque les deux noms de notre auteur, c'est qu'il est à la fois un écrivain primé et talentueux et un acteur important dans le monde de l'édition des littératures de l'imaginaire. Alors je démarre par Thomas D., qui débute en publiant des nouvelles dans plusieurs fanzines. Par la suite, il est publié par la revue Bifrost et il est fortement remarqué en 1998 pour son texte paru dans l'anthologie Escale sur l'horizon, dirigée par Serge Lehmann. Il a aujourd'hui à son actif une cinquantaine de nouvelles, une dizaine de romans. Et il mêle fréquemment des éléments fantastiques, fantasy à ses récits, et il se caractérise par un imaginaire documenté, presque historicisé, on y reviendra peut-être Thomas, comme La Voix du Sabre ou Le Trône d'Ébène. Et Gilles Dumay, donc l'autre facette, est aujourd'hui l'un des principaux contributeurs de la revue Bifrost, dont il signe entre autres les critiques de revues. Et enfin, en tant que directeur de collection, il dirigea aux éditions de Noël Présence du Futur, dont vous avez été l'ultime directeur, je crois, hein, Gilles. Voilà, c'est quand même un magnifique parcours. Puis de Lune d'encre, de sa création en 1999 jusqu'en 2017. Pourquoi 2017 ? Eh bien parce qu'en 2017, il annonce sa fonction de directeur de la nouvelle collection Imaginaire des éditions Albin Michel. Donc peut-être vous pourrez nous dire un petit mot à la fin, parce qu'on attend cette collection, je pense, avec beaucoup d'impatience. Et enfin, Gilles Laporte. Gilles Laporte, un pur Vosgien ? Gilles, ça vous convient, ça ? Un écrivain, scénariste, homme de radio-télévision et conférencier lorrain. Il est issu d'une famille d'ouvriers du textile, formé à la philosophie par le professeur Raymond Ruyer. Je signale pour ceux qui ne connaîtraient pas que c'est un très grand spécialiste des utopies. Et Gilles a consacré sa carrière professionnelle à l'enseignement et à la formation. Dès 1968, il va publier de la poésie, ensuite des nouvelles et du théâtre, et puis il va se tourner vers le documentaire et le dramatique, donc pour la télévision, consacrant notamment un travail important au schisme lorrain de Sion au XIXe siècle. En 1983, il vient au roman avec Pierrot La Hure, et le prix Erckmann-Chatrian lui est attribué en 1984 pour son roman Le Moulin du Rouet. 1997, il aborde le roman historique. Il va rencontrer évidemment un beau succès et il va même recevoir deux prix, le prix Plume de Verre et le prix Sadler de l'Académie de Stanislas. Et enfin, il se dit militant de la mémoire de Lorraine, on y reviendra, et il consacre souvent son écriture et son travail de conférencier aux êtres et aux lieux emblématiques du pays, de la région. Lamotte, Frédéric Chopin, dont tous les ancêtres sont lorrains, et Otto de Habsbourg, Lorraine, le duc de Lorraine actuel. Voilà, peut-être que vous aurez l'occasion de nous en parler. Le sujet de cette table ronde, il me semble être double. situé entre littérature de l'imaginaire et histoire, entre fiction historique et réalité historique, nous allons interroger nos auteurs sur ce qui est l'axe principal de leur créativité, l'histoire, mais aussi sur les desseins cachés de l'utilisation de l'histoire pour mieux comprendre nos passés, pour mieux appréhender peut-être nos présents. Et je parle bien de nos passés et nos présents, évidemment, au pluriel. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est quel est votre rapport à l'histoire, au passé? Est-ce qu'il y a des périodes historiques qui vous intéressent particulièrement? Delia?
I have always been interested in history as long as it didn't have anything to do with memorizing dates, because I have a very poor memory. But I always loved social history, and it occurred to me fairly young that the present that I was living through had a great deal to do with where I had come from, where American history had been, made the world that I was currently living in.
J'ai toujours beaucoup aimé l'histoire. J'ai toujours été très intéressée par l'histoire. Tant que ça ne touchait pas aux dates, parce que j'ai une très mauvaise mémoire. J'aime beaucoup l'histoire sociale. Et depuis ma plus tendre jeunesse, j'ai eu conscience que le présent a été formé par le passé de mon pays, les États-Unis.
So when I came to write, because I also knew a great deal about folklore, which has a great deal to do with history and comes out of a particular culture, I found myself writing fantasy that had a historical background rather than fantasy that had a modern background.
Alors, quand j'ai commencé à écrire, en réalité, j'ai toujours été passionnée par le folklore. J'ai beaucoup de connaissances sur le folklore et ça a beaucoup influé mon écriture. Alors, quand j'ai commencé à écrire du fantasy qui était situé dans un contexte historique plutôt que du fantasy tout court.
Oui, Gilles ?
Oui.
Donc, je répète la question. Quel est votre rapport à l'histoire et au passé ? Est-ce que... Voilà, vous avez certaines périodes qui vous intéressent particulièrement.
Oui, il y a trois périodes qui m'intéressent particulièrement. C'est le XVIIe siècle d'une part, parce qu'il est très convulsif chez nous en Lorraine. Et puis le XIXe et le début du XXe siècle. Le XIXe parce que c'est le siècle de transition entre ce qu'on peut appeler l'ancien régime, l'ancienne société et la société dite moderne, qui nous annonce déjà tout ce que nous sommes aujourd'hui. Donc ce sont les deux périodes qui me sont les plus chères. Et le rapport que j'ai à l'histoire, c'est le rapport que j'ai au quotidien avec mes contemporains. Puisque l'histoire, c'est ce qui nous fabrique, c'est ce qui fait de nous ce que nous sommes. Nous ne sommes que le résultat des évolutions qui ont été vécues, souvent voulues, parfois subies par nos prédécesseurs.
D'accord. Et Gilles, vous avez... Alors moi, j'étais assez étonnée et en même temps vraiment très intéressée par votre approche, justement. Alors... Bon, certes de fantaisie, mais enfin quand même très très lié à l'histoire, par exemple dans le Trône d'Ébène, parce que c'est assez rare finalement d'évoquer l'Afrique. Et alors justement par rapport à l'Afrique ou par rapport au Japon, c'est des périodes qui vous intéressent?
Alors moi, j'ai pas du tout l'esprit qui fonctionne comme ça en fait. Ma culture, c'est le cinéma et la bande dessinée. Et j'ai grandi dans une famille où on allait tous les mercredis au cinéma et... où ma mère me traînait voir des trucs absolument improbables, genre Ben Hur à 3 ans, ou enfin, des trucs comme ça. Il paraît que j'ai pas bougé pendant les 3 heures du film. Et j'ai fait ma culture comme ça. Et donc la plupart du temps, quand j'ai envie d'écrire un livre, quand j'ai les premières images ou les premières envies qui viennent, ça peut être lié à une période historique ou pas, hein, j'ai fait des bouquins sur le futur aussi. Mais quand c'est lié à une période historique, là je deviens curieux et obsessionnel. J'ai un caractère obsessionnel, de toute façon. Je creuse. Et donc, quand je me suis intéressé aux samouraïs, pour des raisons cinématographiques, c'est-à-dire les films d'Akira Kurosawa, les trucs de sabre, les gens qui se faisaient décapiter en série, etc. J'adorais ça, j'adore toujours ça. Donc je me suis dit, tiens, le Japon, c'est super, les samouraïs, mais alors c'est quoi un samouraï? Ah, la période d'Edo, c'est quoi la période d'Edo? Ah, comment on fabrique un katana? Ah ben, on fait un katana comme ça, etc., etc. Donc je me suis retrouvé à acheter des tas de bouquins en anglais, en français, sur comment on trempe la lame d'un katana, comment on martèle un katana, comment on polie un katana, etc. Et pourquoi on porte un kimono, comment on le plie, ainsi de suite. Donc ça vient de ça. Et Shaka Zulu et l'Afrique, ça, c'est un espèce de... C'est le truc qu'il ne faut jamais faire en fait en édition. Il y a un pays qu'il ne faut pas traiter, c'est l'Afrique. Ça, n'importe quel éditeur vous le dira. Moi, je suis éditeur, je sais. Donc, j'adore l'Afrique. Je vais souvent en Afrique. Enfin, j'y vais chaque fois que je peux pour voyager. C'est un continent qui me plaît bien, mais comme l'Asie du Sud-Est, comme les États-Unis, comme l'Écosse. Enfin, je voyage toute l'année, si possible. Et donc, l'Afrique, j'avais envie de trouver quelque chose d'africain et en même temps quelque chose d'héroïque. Espèce de Conan africain, il n'y en a qu'un seul, c'est Shaka Zulu. Donc j'ai commencé à lire le Shaka Zulu de Mofolo, le roman. J'ai commencé à lire des tas de choses sur les Portugais qui arrivaient sur le sud de l'Afrique du Sud, les Anglais, la guerre des Boers, etc. etc., etc. Et je me suis dit, tiens, voilà, j'ai un sujet, c'est Shaka Zulu. Donc je vais faire Shaka Zulu, mais à ma façon. Et à ma façon, c'est forcément avec de la magie, c'est forcément avec des dieux, c'est forcément avec des dieux gigantesques qui arpentent la terre, un immense crocodile, un immense éléphant. Et moi, je fonctionne comme ça.
Et une immense araignée aussi.
Et une immense araignée, oui. Bah, voilà, alors, il y a des trucs qui sont vrais, des trucs qui sont inventés. Moi, j'aime bien tout mélanger. Mais parce que je suis le produit d'une génération où on a grandi avec les séries télé, les films, les BD, les jeux vidéo. Et les bouquins, c'est le plaisir au travail de recherche, mais c'est certainement pas l'étincelle, elle vient pas de là. Elle vient la plupart du temps. C'est Shaka Zulu, par exemple, je me souviens avoir vu la série, était passée sur. À l'époque, c'était la 5. Plus personne ne se souvient de la 5. Mais c'était dément, cette série télé. On ne voyait jamais ça, une série télé où il y avait des gens qui étaient éventrés, des visages qui étaient brûlés. Enfin, c'était épouvantable. Et en même temps, il y avait ce personnage, Shaka, complètement fou, insensé, avec le regard. Le regard cinglé, et ça a marqué l'enfant que j'étais, et c'est vrai que c'est une résurgence, c'est un truc qui est remonté un jour dans ma vie. Tiens, Shaka Zulu, c'était qui? Qu'est-ce qu'il a fait? Je me souviens de la série télé, mais alors donc j'ai racheté la série télé, et puis ainsi de suite. Ça, voilà, ça fonctionne comme ça chez moi.
D'accord. Merci. Bon, vous avez un petit peu répondu peut-être à ma deuxième question, mais ça ne fait rien, on va y revenir. Alors, ma deuxième question concerne les choix géographiques, parce que en plus de faire des choix finalement historiques sur des périodes précises ou sur des siècles précis, eh bien, ces auteurs, la particularité de nos trois auteurs, c'est donc de faire, comme vous l'avez entendu avec Thomas D, c'est de faire des choix géographiques. Donc, par exemple, pour Delia, le château quand même de Beaupré dans le Jura, la Floride, hein, donc l'Afrique du Sud et le Japon pour Thomas. Les Vosges, la Lorraine pour Gilles. Donc ma question, c'était pourquoi croiser ainsi justement l'espace et le temps dans vos romans, mais quand même un espace particulier. Voilà, pourquoi ces choix également de.
Well, I've been thinking, listening to you all, and I am attracted to both the period and the country that I love the most, and that I know the most about, and that I enjoy researching the most, because when you write historical fiction, of course, you do a great deal of research.
J'y pensais justement à cela. Et en réalité, je suis attirée par la période, par le pays que j'aime le plus, sur lequel je connais le plus et sur lequel j'aime faire des recherches, parce que bien entendu, je fais beaucoup de recherches pour mes romans.
So, all of my children's novels have been set in America. They have been set in places that I have lived or I have roots. My parents both came from the American South. My mother came from Louisiana, where the Labyrinth vers la Liberté is set. And the latest book that I wrote in America, called The Evil Wizard Smallbone, is set in Maine, where I have spent a great deal of time. I have set short stories all over the world. But the two places that the other place that I always write novels about seems to be France. I learned French when I was very young. When I was six, they started teaching me in school, and you know, the teaching was mostly learning how to read and how to listen, but not so much how to speak, which is why I'm listening but not talking. And I just love the 19th century. I love the middle and late 19th century very much. And I love the time around the French Revolution. So that is what The Porcelain Dove is about. So I just am attracted to certain things, and then I go do them.
Bon, la plupart de mes romans pour enfants se déroulent aux États-Unis, dans des régions où j'ai habité, où j'ai des racines. Par exemple, mes deux parents viennent du sud des États-Unis. Ma mère est de Louisiane. Mon dernier livre se déroule dans le Maine. J'ai même une copie dans mon sac. Attendez. Le voilà, le vilain. The Evil Wizard of Spellbound. Oui, bien sûr. J'ai écrit des nouvelles aussi qui se déroulent dans le monde entier. Pour ce qui est de la France est un pays que j'aime beaucoup. J'ai commencé à apprendre le français quand j'étais très jeune. J'avais juste 6 ans. On nous apprenait surtout à lire, à comprendre, à écouter. Donc c'est pour ça que maintenant j'écoute, mais que je ne parle pas français. La période du 19e siècle me passionne, surtout le milieu et la fin du 19e siècle. La Révolution française aussi, d'ailleurs. J'ai un livre qui va sortir sur la question. C'est quelque chose qui me passionne.
Merci, Delia. Alors, Gilles, justement, c'est intéressant de travailler avec vous parce que là, on est à la fois dans une, finalement aux États-Unis, on revient en France, on est en Afrique, on change de continent. Et nous, nous allons retourner vers votre région. Alors, pourquoi justement avoir choisi, alors, bon, parce que vous aimez votre région, j'imagine, mais pourquoi avoir consacré finalement votre carrière d'écrivain à votre région?
Il y a deux raisons. La première, c'est que c'est plus simple pour moi. Je la connais très bien, celle-là, en profondeur, cette région. J'y vis depuis 72 ans et je n'ai pas l'intention de la quitter. Donc, je la connais bien. Pourquoi aller me fatiguer à trouver de la documentation, à explorer d'autres régions pour y planter l'action de mes romans? D'autant que mes romans tournent toujours autour des mêmes thèmes, qui sont le refus de la justice, le refus de l'exploitation de qui que ce soit par qui que ce soit, le refus du mensonge. Or, je suis issu d'une famille, vous l'avez dit, d'ouvriers de filature des Vosges. Dans ma famille, il n'y avait pas de livres. Il n'y avait pas de disques non plus. Il était interdit de lire parce que lire était considéré comme une occupation de fainéants. Donc, je suis arrivé très tard très tard. J'avais 7 ans. Grâce à ma première maîtresse d'école, j'ai réussi, elle a réussi à me faire partager son amour de la langue et j'ai décroché grâce à elle le prix de lecture au cours élémentaire première année. Rendez-vous compte, c'était considérable pour moi. À l'époque, on recevait encore un prix sur une estrade au cours d'une fête dans laquelle, à laquelle participait tout le village. Donc j'ai reçu comme livre, comme cadeau, un livre, mon premier livre, qui était le Don Quichotte de Cervantes en édition illustrée pour enfants. Et je me suis plongé là-dedans, je l'ai lu des dizaines, des centaines de fois, je le relis encore de temps en temps. Quand je suis en panne, par exemple, quand mes personnages refusent de collaborer avec moi, je relis un peu de Cervantes et ça redémarre. Donc ça a été pour moi une révélation que celle-là, et en même temps qu'une initiation à la rébellion. Et je suis un Don Quichotte qui combat tous les moulins à vent de la terre, toutes les injustices de la terre. On a évoqué l'Afrique tout à l'heure. J'ai eu la chance, l'opportunité, je sais pas si c'est une chance, en tout cas, d'aller en Afrique en 64, en Côte d'Ivoire. C'était 4 ans après l'indépendance. Et j'avais, en partant là-bas, l'image de l'Afrique que me donnaient mes livres d'école, c'est-à-dire ce pays que, selon Jules Ferry et les autres colonisateurs, nous avions enrichi. Des pays auxquels nous avions apporté notre culture, notre santé, notre savoir. Et lorsque j'ai posé le pied sur le sol africain à Abidjan, sur la piste de l'aéroport d'Abidjan, j'ai vu se précipiter vers moi un grand baoulé qui s'est agenouillé devant moi et qui m'a dit « Patron, s'il te plaît, donne-moi du travail. » Moi, patron, j'avais 16 ans. Ça m'a choqué. Et j'ai découvert là ce qu'était le mensonge d'État. J'ai trouvé l'Afrique telle qu'elle était, dans l'État réel dans lequel on l'avait mise, parce qu'elle n'était pas comme ça lorsque nous sommes arrivés. Et j'ai découvert aussi ce que m'a enseigné plus tard, d'une manière très universitaire, mais il n'empêche très chaleureuse, le professeur de philosophie que vous avez cité, Raymond Ruyère, qui était un spécialiste, vous l'avez dit, des utopies, mais qui se présentait aussi comme un panpsychiste. Et j'ai découvert l'animisme africain et je l'ai compris effectivement ensuite, dans sa plus grande dimension, grâce à Raymond Ruyère. Nous avons de l'Afrique à prendre des leçons considérables, les plus essentielles des leçons en matière de respect de l'environnement, alors que nous avons encore des présidents, enfin un président qui va se balader à Dakar pour prétendre que l'homme africain n'est toujours pas entré dans l'histoire. Alors que c'est nous qui en sommes sortis de cette histoire. Donc voilà ce qui sous-tend mes romans. Alors je disais les injustices, oui, tous mes romans rendent hommage à la femme, F majuscule, parce que il n'y a pas d'être plus maltraité au monde, dans toutes les sociétés d'ailleurs, mais chez nous en particulier, que la femme. J'ai travaillé pendant longtemps dans l'industrie et dans l'agriculture. Pendant 30 ans, j'ai eu des responsabilités dans ces deux domaines. Et j'ai mesuré à quel point l'inégalité salariale entre la femme et l'homme était importante. En moyenne, je le dirai tout à l'heure. Et j'ai consacré une partie de mon travail de recherche, non pas d'historien, parce que je ne suis pas historien, mais j'aime passionnément l'histoire, à une Vosgienne, Julie-Victoire Daubier, première bachelière de France, première licenciée ès-lettres de France, première journaliste économique de France au XIXe siècle. Et elle dénonçait déjà à cette époque-là, en 1860, les inégalités salariales entre les femmes et les hommes, qui étaient à l'époque, tenez-vous bien, de 25%. Aujourd'hui, dernier rapport officiel, rendu l'an dernier, inégalité salariale entre femmes et hommes en France, 24%. On a gagné 1% en un siècle et demi, mesdames, donc peut-être un millénaire et demi, vous aurez atteint le niveau d'égalité de l'homme en matière salariale. Donc voilà, voilà ce que sont mes combats, d'où vient ma passion de la littérature, de l'écriture, Don Quichotte, et mes combats qui sont dans tous mes romans. Alors, roman enraciné en Lorraine, parce que je l'ai dit et je le répète, c'est la région dont je suis issu, dans laquelle je vis, la région qui me nourrit, aussi bien matériellement que spirituellement, et dont j'aime parler.
Alors, on y reviendra après aussi par rapport aux personnages, parce que vous variez entre les personnages peut-être historiques, enfin les grands personnages, et puis des personnages issus du peuple, hein, comme on l'a vu, mais ça on y reviendra peut-être. Alors justement Thomas, vous nous avez dit que vous ne rentrez pas finalement dans la création via l'histoire, mais via les images, via peut-être l'iconographie. Et moi ce qui m'a frappé dans vos romans, c'est que vous construisez en fait, l'espace géographique est construit avec des images, vous attachez beaucoup d'importance au corps, et notamment dans le trône d'ébène ou dans le excusez-moi, j'ai oublié le titre, dans la voie du sabre, voilà. Dans la voie du sabre, vous accordez une grande importance dans le corps. J'ai l'impression que l'espace, ces espaces différents du Japon et de l'Afrique, passent aussi à travers la description des corps, des combats, des blessures, etc., auxquelles vous vous accordez beaucoup d'importance, on l'a vu. Donc c'est une géographie peut-être particulière, une géographie mythique, hein, quasiment, que vous essayez de construire ou pas, je ne sais pas. Je vous pose la question.
En fait, j'inverserai le problème. C'est-à-dire que, aussi loin que je me souvienne, j'ai absolument, je suis aveugle à la culture française. Je ne suis pas capable de regarder un film français. Je ne suis pas capable de suivre une série télé française. Ça ne m'intéresse pas. Je ne lis quasiment pas de littérature française. Je ne lis que de la littérature américaine. Principalement plus chez Albin Michel, d'ailleurs. Cette espèce de côté blindside vis-à-vis de la culture française, je l'ai retrouvé très jeune dans mes voyages. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à voyager à 20 ans, le premier truc que j'ai fait, c'est que je suis parti aux États-Unis, j'ai traversé les États-Unis en bagnole. J'avais 20 ans, je voulais juste avoir mon permis. Et globalement, je travaillais pour pouvoir partir en voyage. Puis je travaillais, puis je partais en voyage, puis je travaillais, puis je partais en voyage. J'ai fait ça pendant des années, quoi. Mon amour s'est fixé sur les Rocheuses aux États-Unis, sur l'Écosse, sur le sud-est asiatique et principalement le Laos, Cambodge, nord de la Thaïlande. Et j'aime beaucoup aussi les pays de l'Est, que je connais relativement bien, et l'Afrique. Mais plus tard, j'avais plus de moyens financiers, donc je pouvais partir à Dakar, je pouvais partir à Nairobi, je pouvais faire des randonnées et tout. Donc mon rapport à ces pays-là, il est, comme on voit sur mes chaussures, je suis un marcheur, un randonneur. Donc quand je pars en Écosse, je fais des randonnées. Quand je pars dans les Rocheuses, je fais des parcs nationaux, je marche dans les parcs nationaux. Quand je vais en Asie Sud-Est, je fais de la jungle. Quand je vais en Afrique du Nord, je fais du désert. Je fais beaucoup de motos, en Asie, beaucoup de motos en Afrique quand je peux. C'est des rapports visuels au pays, c'est des rapports... des fois visuels et autres, avec les femmes des pays, et ainsi de suite. Je me sens plus voyageur qu'écrivain, et quasiment tous mes livres partent de voyage. La Voie du Sable, qui est un truc qui se passe au Japon, j'ai jamais mis les pieds au Japon, jamais. En fait, j'étais en Thaïlande, j'ai eu une hernie discale, je suis resté bloqué en Thaïlande pendant 3 semaines sur un lit, je ne pouvais pas bouger. Donc, quand vous êtes 3 semaines sur un lit sans bouger, dans un pays où ils ne voulaient pas me transporter en ambulance, enfin bon, c'était tout un bordel, j'ai pris mon ordinateur portable et j'ai écrit un roman pendant 3 semaines. Voilà, c'est devenu La Voix du Sabre. Donc c'est un roman japonais qui a été écrit en Thaïlande sur un lit où j'avais mal. C'est globalement mon dernier livre, c'est un livre sur la Thaïlande, qui a été écrit en Thaïlande, qui parle de la pédophilie, des réseaux pédophiles, qui parle de l'injustice, qui parle de la corruption. Et je suis allé là-bas pendant le shutdown, j'ai fait tous mes repérages, j'ai fait tout là-bas, j'ai écrit tout là-bas, j'ai fait des tas de photos. J'ai besoin de sentir les pays, les odeurs, les gens, de discuter, de me perdre dans des villages. J'étais au Cambodge en novembre, j'ai passé 3 semaines dans les villages de montagne près de Ban Lung. J'ai besoin de ça, c'est comme ça que je fonctionne et presque les livres sont secondaires derrière ça, les voyages sont plus importants en ce qui me concerne.
Oui, d'où ce rapport au corps en fait, hein. Vous ressentez vraiment le pays finalement dans votre chair là, et puis même dans votre souffrance.
Oui, et puis dans la... Comme beaucoup de gens qui aiment marcher, moi je suis vraiment solitaire et j'aime bien, quand je suis en Thaïlande, j'aime bien faire de la jungle tout seul, sans guide, sans personne. Et donc c'est... J'aime pas voyager avec des gens, j'aime pas voyager. Là, je voyage avec mes enfants parce qu'ils grandissent et que j'ai envie de leur faire découvrir tous ces trucs-là. Mais jusqu'à ce que j'ai mes enfants, j'ai quasiment toujours voyagé tout seul, quoi. Ce qui n'est pas toujours facile quand on a une vie de couple. Parce que c'est un rapport à la solitude, c'est un rapport au désert. Moi, quand j'ai découvert le désert pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression d'avoir emporté le désert avec moi. J'ai des manques de désert, comme il y a des gens qui ont des manques de, je sais pas, de plage ou. Moi, je vais avoir des manques de désert, ou je vais avoir des manques de jungle, ou je vais avoir des. C'est surtout la jungle, en fait. Mais j'ai besoin de me faire bouffer par les moustiques, j'ai besoin de mal dormir par terre, de mal manger, j'ai besoin d'être malade, j'ai besoin de découvrir tout ça, et puis de discuter, de rigoler avec les gens le soir, fumer des petits cigares, parce que j'emporte des boîtes de cigares en Asie du Sud-Est, des petits cigares qu'on fume avec les Thaïs, etc. Bon, c'est. J'aime bien ça, et je travaille en France, je gagne ma vie en France, quand je pars d'Asie du Sud-Est, je pleure. Quand je reviens en France, je me sens pas chez moi et je suis là-bas chez moi. Mes enfants sont en moitié cambodgiens et tous mes liens sont plutôt, tous mes liens vraiment affectifs, forts, personnels, aujourd'hui sont plutôt avec l'Asie du Sud-Est.
D'accord, merci Thomas. Alors, je vais poser 2 questions. On va séparer un petit peu nos auteurs. Alors là, une première question qui va s'adresser à Thomas et à Delia. Comment est-ce que vous définiriez, parce que vous êtes quand même des auteurs de fantasy, donc on va revenir un petit peu quand même au sujet aussi du festival. Comment définiriez-vous votre fantaisie historique et quel est finalement le rôle de l'histoire dans la création de vos romans? Vous l'avez un petit peu dit, hein, donc on ne va peut-être pas y revenir, mais est-ce que c'est plutôt un personnage historique, par exemple, vous fixez sur un personnage historique, plutôt, donc, je dirais, sur des peuples, sur des groupes sociaux? Comment est-ce que vous créez finalement votre fantaisie historique et comment vous la définissez surtout? Vous essayez de la définir.
I am, as far as the stories that I tell are concerned, I am the most interested in telling the stories of the little people, of the people to whom history happens, the people who are not able to control that much what happens to them, the people who are the victims of injustice, and so women's history, children's history, the history of the poor. And so what I do is I use history as a background. Possibly because I'm odd, I will not have a great person. I can have them as an object that somebody sees, and I can describe them from the things that I have read. In the novel I'm writing now, there's a scene where Goncourt is writing on the Petit Centre around Paris, and he doesn't say anything, he just scribbles. And I have read his diary, so I know he was there that day, and that he was there to be seen.
L'histoire, quand je la raconte, en fait, j'aime parler du point de vue des petits, ceux qui subissent l'histoire, qui n'ont pas beaucoup de contrôle, qui sont les victimes d'injustice, par exemple. Donc j'écris beaucoup sur les femmes, les enfants, les pauvres. L'histoire est en fait une toile de fond pour moi. C'est assez, bon, une de mes petites bizarreries que j'écris peu sur les grands hommes. Ce sont des objets, ils existent dans mes romans. Par exemple, dans le roman que je suis en train d'écrire actuellement, il y a Goncourt qui écrit, je sais qu'il était à l'endroit où je le place dans mon roman, mais il ne fait qu'écrire en réalité.
I also try to use, when I write something that is far enough in the past, I use the history, the folklore and the magic that the people at the time believed in. So when I wrote The Porcelain Dove, which is set right before the French Revolution, I read a number of books in French, of French folklore. And I chose the superstitions that came from the area that I was writing about, which was the Franche-Comté, and used those superstitions as if they worked every time, as if they were real, and that the fairies and the lutins and the little spirits that people believed in were actually part. Also, I read some books from some Conte de Fées de La Bibliothèque Bleue, and I used those as history. Those were real history in that book. And so you could have a cabinet de curiosité that was full of blonde princesses and the little chou de verre, and all of the things that appear in fairy tales were there. They were kept, and they were magic. And that's the kind of thing that I like to do with history.
Alors, en réalité, quand j'écris quelque chose sur un passé suffisamment lointain, je me sers beaucoup du folklore, des légendes, de la magie en réalité. Alors, un de mes romans, The Porcelain Dove, qui n'est pas traduit en français, ce serait plus ou moins La Colombe de Porcelaine, se situe à l'époque de la Révolution française, dans une région qui s'appelle Franche-Comté. Et là, je me suis vraiment basée sur le folklore, sur les superstitions de la région du Franche-Comté. Je les utilise, mais comme si c'était la réalité. Alors, dans mon livre, il y a des fées, des lutins, des esprits, et il y a, entre autres, un cabinet de curiosité. Non, pardonnez-moi, j'ai aussi lu beaucoup des contes de fées de la Bibliothèque Bleue, et je les utilise comme si c'était vraiment des textes historiques. Et dans le roman, il y a un cabinet de curiosité où on trouve des princesses, des chaussons de verre, et tout cela est gardé comme si c'était des objets historiques.
Thomas, alors, je sais que vous êtes un écrivain de science-fiction, vous êtes un écrivain de fantasy. Donc, est-ce que pour vous, il y a une différence, bien sûr, il y a une différence très importante entre les deux, mais vous, en tant qu'écrivain, voilà, comment est-ce que vous partez ? Est-ce que vous partez d'images, on l'a compris, on part de vos voyages, et on part également de choix de personnages qui sont des personnages donc épiques. Et est-ce que c'est le cœur vraiment, le choix de ces personnages ? Est-ce que c'est le cœur de votre fantasy ? Est-ce que ce sont des personnages de combattants ? Est-ce que les armes ont une importance qui, enfin, quelque chose qui est important pour vous ? Donc, quels sont les éléments finalement qui fabriquent en quelque sorte votre fantasy ?
Alors, les éléments qui fabriquent l'homme, entre guillemets, fabriquent ce qu'il écrit. Moi, quand j'avais 17 ans, mon meilleur ami a pris un fusil d'assaut et a massacré sa famille avant de se suicider. Donc j'ai un rapport aux armes qui est, pour le moins, j'aime pas ça du tout, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça m'a traumatisé pendant des années, et j'ai écrit pendant des années pour me débarrasser de toute cette image, de tout ce qui a accompagné ce drame. Et donc je me suis construit aussi là-dessus. J'ai perdu ma mère tôt, j'ai perdu ma mère à 20 ans, et donc c'est tôt pour perdre sa mère. Je me suis retrouvé à élever mon frère parce que mon père en était incapable. Enfin bon. Tout ça, l'écrivain se construit là-dessus, il s'extrait de ses problèmes par l'écriture, qui est cathartique. En tout cas, c'est comme ça que j'ai fait, parce que à l'époque, on parlait pas autant que maintenant des psychothérapies ou des psychologues ou des choses comme ça. Et donc, je me suis construit là-dessus. Et c'est vrai que moi, je réfléchis pas tellement en termes de fantasy ou de science-fiction ou quoi que ce soit. La Voix du Sable, qui est un de mes premiers livres, j'avais envie d'écrire un truc sur Miyamoto Musashi, qui est un grand sabreur, un grand samouraï japonais, enfin plutôt un grand ronin. Et je me suis renseigné sur ce gars-là, et puis moi j'avais envie de faire ça dans un monde où il y a des dragons, où il y a de la magie et tout. Et c'est devenu une fantaisie parce que j'avais envie de dragons, et j'avais envie de dragons, et j'avais envie de la magie. Quand j'ai fait Shaka Zulu, je voulais qu'il y ait des dieux africains gigantesques et qu'il y ait de la magie. C'est devenu une fantaisie, mais voilà, j'avais envie de faire mon truc avant tout. Là, je fais une BD avec Guillaume Sorel sur Macbeth. Et parce que cette pièce de Shakespeare, elle est incroyable, elle est vraiment incroyable. Et il y a un trou dans la pièce, c'est Lady Macbeth, c'est-à-dire c'est elle qui a le plus beau, les plus beaux vers, elle a les plus belles tirades, et en fait, la pièce ne parle vraiment pas d'elle. Et donc, j'ai inversé le problème. J'ai dit à mon éditeur chez Glénat, ben, moi, je vais faire une BD sur Lady Macbeth. Ça va s'appeler Macbeth, roi d'Écosse, mais le vrai sujet, c'est Lady Macbeth. C'est pourquoi elle est comme ça, pourquoi elle dit ça, pourquoi elle devient folle, pourquoi elle croit qu'elle a du sang sur les mains, etc. etc. Et donc, souvent, c'est vrai que ça part de personnages forts qui sont des espèces de béquilles pour l'écrivain. On a besoin de sujets. Moi, j'ai pas d'idée, c'est comme ça. Je suis né, j'ai jamais eu d'idée. Donc, bon, il faut des idées. Donc, les idées, c'est les sujets. Et les sujets, c'est Miyamoto Musaki, Chaka Zulu, Macbeth, ces choses comme ça. Sherlock Holmes, j'ai fait un Sherlock Holmes complètement cinglé. Parce que, une fois que le truc est impulsé, une fois que je sais que c'est le cœur du truc, après, tout le reste, c'est des images, c'est des odeurs, c'est des. Ça, je peux fournir. J'ai pas besoin d'idées. J'ai juste besoin de le vivre. J'ai besoin de le resituer. Mais l'idée, le monde, comme Laurent Jeunefort qui est présent dans la salle, est un créateur d'univers, de monde, etc. Bon, ça, moi, je sais pas faire. Et puis, je saurais jamais faire. Donc, j'ai besoin de ma béquille. Ma béquille, c'est Musashi ou c'est.
Ah oui, pourtant, on dirait pas quand même, hein, parce que les livres que vous nous proposez sont quand même des univers. Enfin, vraiment, je reviens hein, sur effectivement le trône d'ébène, mais c'est un univers. Moi, je trouve que c'est un univers africain à part entière qui nous fait pénétrer dans quelque chose de tout à fait extraordinaire. D'ailleurs, il y a une très très belle figure de mère dans ce roman. Alors peut-être ceci explique cela.
Elle est historique. Oui, bien sûr. Ben, c'est sans aller jusqu'à la psychologie de bazar. Chaka Zulu, il était amoureux de sa mère, c'est un fait historique, on sait pas jusqu'où elle est l'inceste, mais c'est allé de génération en génération dans les racontars et tout, on sait qu'il y avait un truc avec sa mère, et quand elle est morte, il a fait massacrer son peuple, ça c'est un fait historique aussi, il a fait tuer 6000 personnes le jour de la mort de sa mère, pour le deuil quoi. Donc ça voilà, ça nourrit l'écrivain, mais moi j'ai pas d'idée, c'est-à-dire j'ai pris Chaka Zulu, et ce qu'il y a dans le livre, c'est du travail de documentation, c'est des choses que j'ai lues sur les Portugais, sur un médecin irlandais qui a fréquenté Chaka Zulu, etc., etc. J'ai acheté tous ces bouquins-là et je m'en suis inspiré. Et puis après, je me suis dit, tiens, un truc miyazakien, donc à la Miyazaki, avec comme dans Princesse Mononoké, il y avait des espèces de dieux gigantesques. Ben, je me suis dit, tiens, je vais faire ça en Afrique. L'idée, elle vient pas de moi, je l'ai fauché à Miyazaki, je peux le dire. Il y avait ces dieux gigantesques au Japon, ben, moi, je les mets en Afrique. Alors, ça devient un éléphant gigantesque, un truc. C'est une espèce de. Vous savez, les écrivains sont des éponges, en fait. On absorbe des trucs, on absorbe, on absorbe, on absorbe, on absorbe. Alors, il faut absorber les meilleurs trucs possibles, à mon avis. Moi, c'est plutôt Sergio Leone, Kurosawa, et Miyazaki, ce genre de choses. Mais globalement, je ne fais que absorber. Le seul apport personnel là-dedans, ben, c'est peut-être oui, la figure de la mère. C'est peut-être le lien avec les armes qu'il a fallu que j'exorcise, qui a été cathartique pendant des années. C'est les violences faites aux femmes, parce que j'ai été confronté à ça et que j'ai écrit beaucoup là-dessus, parce que j'ai eu, comme tout le monde, hein, je connais des amis qui ont eu des problèmes. Je connais. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. J'ai vu vraiment des choses très, très dures. J'ai vu des choses très dures en Asie. C'est devenu un livre sur la pédophilie. J'ai vu des choses très dures en Afrique. C'est devenu. Chaka Zulu et d'autres textes que j'ai pu écrire sur l'Afrique. J'ai écrit un texte sur le viol en tant qu'arme de guerre. Enfin voilà, c'est. Mais c'est globalement, ça vient. C'est pas de l'idée, ça vient de la vie, ça vient de ce qu'on voit et ça vient de ce qu'on absorbe, quoi.
Merci. Alors, question pour justement par rapport à donc les Vosges peut-être et puis à notre écrivain plus. On va dire plus local en quelque sorte. Alors, quelle est à vous votre conception du roman historique ? Comment mettre en scène l'histoire d'une région, de son peuple, de ses grandes figures ? Donc, quels sont les choix que vous avez faits à travers vos différents romans ?
D'abord, précision, je ne suis pas écrivain. D'accord. Bon. Un ami peintre me racontait qu'il a rencontré un jour Picasso. Il était jeune, il avait 20 ans, 21 ans, il était aux Beaux-Arts à Paris. Il a rencontré Picasso, il était avec deux autres de ses copains qui, eux, n'étaient pas aux Beaux-Arts. Et lorsque Picasso les a rencontrés, il leur a demandé que faites-vous ? Et le premier a dit, je ne sais pas, n'importe quoi, je suis apprenti charcutier. Le deuxième a dit, je suis charpentier. Et lui a dit, moi, je suis peintre. Et Picasso l'a regardé loin dans les yeux, lui a dit, vous saurez, mon petit ami, qu'on n'est jamais peintre. On tente tous les jours de le devenir par son travail acharné. Donc j'essaye encore de devenir écrivain. Je suis un ouvrier des lettres, je suis comme mes parents, ils prenaient leur boulot à 5 heures du matin à l'usine, je prends mon boulot tous les matins à 5 heures sur ma machine à moi, eux travaillaient sur des machines à faire du fil, moi c'est une machine à faire des phrases. Et Le rapport au pays. Le rapport au pays, c'est, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est parce que je le connais bien que j'ai choisi celui-là en priorité. Mais j'écris aussi des histoires qui se situent dans d'autres régions. J'ai parlé de l'Afrique tout à l'heure. Une grande partie d'un roman est située dans ce pays pour lequel j'ai une affection profonde, très profonde. Il y a d'autres romans qui se situent en Bretagne, en Provence, dans les Pyrénées. Donc les lieux sont très, très dépendants du sujet que je traite. La culture locale est très, très enrichissante pour ma réflexion à propos du sujet que je suis en train de traiter. Alors, quant au sujet, ce sont presque toujours les mêmes. Je suis comme bien des peintres qui ont peint toute leur vie la même toile. J'essaie de répéter toujours la même approche, des mêmes sujets, mais sous des angles différents, avec des regards différents, des visions différentes et surtout avec des expériences de vie différentes que j'observe autour de moi, que je recueille dans l'histoire et que j'ai envie de transmettre. Je suis un passeur. Je suis un passeur. La Lorraine m'est précieuse parce que, je l'ai dit tout à l'heure, je suis un Don Quichotte, mais précieuse parce que c'est une région de France qui a subi un génocide terrible dont personne ne parle, dont il est interdit de parler. Au XVIIe siècle, en 10 ans, elle a perdu 80% de sa population, sur ordre de Louis XIII et de Louis XIV ensuite, et sur ordre de Mazarin.
Excusez-moi de vous couper, c'est le sujet du roman de Pierre Pelot, Ce que les hommes vivent.
C'est autre chose. C'est la guerre de. Oui, le sujet que traite Pelot dans C'est ainsi que les hommes vivent, c'est la guerre de 30 ans. Et ce que je suis en train de dire, c'est la conséquence de la guerre de 30 ans, la volonté des rois de France d'annexer de façon, quelle que soit la manière d'ailleurs, d'annexer la Lorraine. Donc ce génocide, il est encore aujourd'hui interdit d'en parler. J'en ai fait un roman historique, un pavé de 450 pages qui en est à sa cinquième réédition. Donc on est dans cette relation à l'histoire qui. Non, parce que j'ai le souci de réactiver de vieilles douleurs en vue d'alimenter des haines contemporaines, pas du tout, mais simplement parce que c'est une sorte d'invitation à une psychanalyse collective. On parle en permanence, chez nous en Lorraine, de la bagarre entre Metz et Nancy, une bagarre qui finit par nous donner un aéroport à mi-chemin entre les deux que personne ne fréquente parce qu'il est en race campagne, au milieu des vaches. Pareil pour la gare TGV. Et tous les visiteurs qui arrivent en Lorraine, qui arrivent là, où la gare TGV qui est paumée dans la campagne, et où l'aéroport, on dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette Lorraine? Mais ils ne comprennent pas s'ils ignorent qu'entre 1642 et 1644, Metz était déjà devenue française par le traité de Nuremberg et elle a facilité la conquête de la Lorraine par les rois de France à cette époque-là, et que la Lorraine ducale, la Lorraine de Nancy, y était violemment opposée. Donc ce récit historique devrait alimenter notre réflexion aujourd'hui, la réflexion notamment des bâtisseurs actuels, des hommes politiques, des responsables économiques qui, le connaissant, auraient plus de facilité pour le surmonter et aller vers de véritables relations de partenariat, ce qui n'est pas le cas. Donc c'est une histoire qui me hante et que j'ai envie de partager. Et puis au XIXe siècle, je l'ai dit tout à l'heure, mais je peux le développer un peu, c'est le siècle de la grande transition. C'est le siècle, vous disiez que vous êtes une amoureuse aussi du XIXe siècle, et comme je vous comprends, nous sommes deux amoureux du XIXe siècle, parce que c'est le siècle des grandes révélations, c'est le siècle des grandes prises de conscience, c'est le siècle au cours duquel les femmes se sont rendues compte qu'elles existaient tout de même, même si elles n'ont pas pu encore le prouver à cette époque-là. Il a fallu qu'elles attendent 1920-25, la fin de la Première Guerre mondiale, pour pouvoir prouver qu'elles existent dans notre société. C'est aussi le siècle de naissance des grands mouvements politiques et sociaux qui nous gèrent encore aujourd'hui. C'est le siècle de la prise de conscience du mouvement ouvrier, de l'existence du mouvement. La vie des humbles s'est révélée grâce notamment, en partie, aux grandes plumes de cette époque, à Victor Hugo, à Zola, à Stendhal. On a approché enfin la réalité sociale à cette époque-là. Et voilà ce qui me fascine dans ce XIXe siècle. Pas seulement par nostalgie, mais parce que fouiller ce qu'a été ce siècle, toutes ces convulsions, nous permet de mieux nous situer aujourd'hui, de mieux comprendre ce que nous sommes aujourd'hui, et comprenant mieux ce que nous sommes, d'essayer au mieux d'imaginer demain. C'est ça, mon travail d'ouvrier des lettres, c'est un travail de passeur.
Merci Gilles. Alors, vous faites formidablement bien le lien avec ma dernière question.
C'était involontaire.
Non, mais je sais. Quelles sont finalement la dernière question que j'avais envie de vous poser, parce qu'il nous reste encore quelques minutes. Quels sont vraiment les enjeux de vos romans? Donc, Gilles, on a bien compris que... Alors, j'avais gardé cette expression pour la fin, que vous êtes un militant de la mémoire, mais pas que, puisque vous faites évidemment le lien avec le présent.
Nous sommes dans la ville dont Philippe Séguin a été député-maire pendant très longtemps, une ville qu'il a d'ailleurs transformée complètement et en profondeur. J'étais un de ses proches, j'ai participé à la création de la radio locale, de la télévision qui existe toujours et qui est une télévision de première grandeur. Et lui, qui était de formation historien, me répétait à chaque fois qu'il arrivait l'occasion, tu n'oublieras jamais qu'ignorer son passé, c'est être incapable de se situer dans le présent, donc d'imaginer l'avenir.
Merci. Donc, si je reviens au sujet finalement de notre table ronde, qui était finalement interroger l'histoire pour mieux appréhender le présent, finalement, Delia, l'enjeu de vos romans, qu'est-ce que c'est? Peut-être par rapport à la culture, à l'histoire américaine, voilà, quelles sont les grandes idées, hein, en deux mots qui...
I am not a woman with great ideas. I write, as you were speaking, I realized that when I was young, I idolized history. I found it very beautiful, very romantic, very monochrome, but you know, beautifully colored like a stained glass window, but no feeling of depth, or it was just all surface. And as I grew older, and my degree is actually in English, I'm in Renaissance studies. I studied Shakespeare and non-Shakespearean writers, and I realized that history was much more deep, was much more rich, and I wanted other people to have that experience in a way that would not be teaching them, but would be showing them.
Donc, bon, je ne suis pas une femme qui ait de grandes idées, mais voilà, quand j'étais jeune, j'adorais l'histoire. Je trouvais que c'était beau, que c'était romantique. Je voyais tout ça dans des couleurs un peu comme une image d'Épinal, en quelque sorte. Donc, c'était un peu monochrome, mais ça manquait de profondeur. Et puis, j'ai grandi. Alors, j'ai fait des études d'anglais. De littérature anglaise. J'ai fait des études sur la littérature de la Renaissance, Shakespeare entre autres. Et grâce à ça, ma vision de l'histoire est devenue plus profonde, plus riche. Et je voulais que d'autres aient cette même perception de l'histoire, ce même sentiment de l'histoire, qu'ils la vivent, mais qu'on leur enseigne pas de force, en quelque sorte.
I just think that, and I was also making myself happy. I was learning things that I wanted to learn. I was finding all of the contradictions. I was finding all of the grandeur. I was finding all of the little things. And the most interesting little things to me were the people who had no voice. Were this, my first book was written from the point of view of a servant. This book is written from the point of view of a girl who is made to be a slave. This is a wizard's apprentice. I'm always trying to write from the point of view of people who don't usually have their stories told, because I think that those stories are the most like ours, even if we don't have the same kind of society that they did in those days.
Donc bon, pour être heureuse, en fait, j'aime bien apprendre, j'aime bien aller plus dans les détails, les contradictions de l'histoire, les petites choses. Il y a une chose qui m'intéresse plus que tout, c'est ceux qui n'ont pas de voix. Je parle souvent de leur point de vue. Dans mon premier livre, c'est écrit du point de vue d'une servante. Celui-ci que vous avez là, c'est une esclave. Et mon dernier livre, c'est un apprenti sorcier. Des histoires des personnes dont on parle rarement. Mais personnellement, je pense que ce sont ces histoires-là qui reflètent mieux nos histoires, nos vies, même si la société est différente.
Merci, Delia. Thomas, dernière question de cette table ronde, et puis après on laissera donc la parole un petit peu au public, hein, s'il le souhaite. On a bien compris que, enfin, moi j'ai trouvé, vous écrivez un petit peu quand même avec votre vie, avec vos tripes. Donc je ne vais pas vous poser la question quelles sont les grandes idées qui traversent vos romans, parce que bon, c'est peut-être pas l'essentiel, mais finalement les personnages que vous nous proposez sont profondément humains, même dans leur violence, etc. Donc est-ce que voilà ce que vous voulez exposer, peut-être, enfin ce qui ressort tout du moins de vos romans, c'est ça, c'est montrer l'humain dans toutes ses facettes, dans toute sa splendeur, mais aussi peut-être dans toute sa déchéance.
Je pense que l'unique sujet de la littérature, c'est l'origine du mal. J'ai tendance à réduire toute la littérature au travail sur l'origine du mal. Moi, quand je lis un livre, quand je regarde un film où il y a entre guillemets des bons, des méchants, ou des personnages gris, ou des crapules, etc., etc., je suis toujours plus intéressé par entre guillemets les méchants plutôt que les héros, que je trouve pas très intéressants. Et j'aurais aimé, par exemple, qu'on me raconte Star Wars du point de vue de Dark Vador. Ça, c'est un truc qui m'aurait bien plu, ou qu'on me raconte Le Seigneur des Anneaux du point de vue de Sauron, et pas du point de vue de trois hobbits qui vont jeter un anneau dans un volcan. Donc, à partir de là, c'est vrai que un personnage comme Shaka Zulu, qui a fédéré l'Afrique du Sud à une époque où ça n'existait quasiment pas en Afrique, qui était aussi un dictateur atroce, un type fou. Voilà, j'adore ce genre de personnage. J'adore Caligula, j'adore tous ces personnages qui, dans l'histoire, ont quelque chose, une folie ou un truc qui est différent. Et ça nous ramène toujours à la nature du mal. C'est ça qui est le plus fascinant dans l'humanité, c'est pourquoi on fait le mal, pourquoi même des gens bien font le mal. Et tout mon travail, il finit toujours par s'intéresser à ça. Pourquoi, avec les meilleures volontés du monde, des fois on fait des trucs atroces. Et ben voilà. Donc c'est ça que je cherche, c'est ça que je cherche. Mais bon, je suis comme monsieur, c'est-à-dire je ne considère pas que je suis un écrivain arrivé ou quoi que ce soit, et je ne considère pas que je réponds à la moindre question. Je suis toujours, quand j'écris, je me pose une question. Et écrire, c'est se poser une question. Et la question que je me pose depuis 25 ans en écrivant, c'est quelle est l'origine du mal, quelle est la nature du mal.
C'est une belle conclusion, Thomas. Merci beaucoup. Donc, est-ce que vous avez des questions à poser à nos trois écrivains, très différents, mais trois belles expériences de vie et trois belles expériences d'écriture aussi? Vous êtes écrasé par la chaleur de ce Magic Mirror, comme nous d'ailleurs. Donc pas de questions? Non? Bien. Eh bien, écoutez,
si vous me permettez, c'est pas une question.
Je vous en prie.
Mais je ne rate pas une occasion de le rappeler. Donc c'est une occasion qui m'est donnée de le faire, de citer Victor Hugo, parce qu'on est là dans le sujet. Victor Hugo qui nous écrivait en 1860 ces vers fameux. Fameux, mais complètement oublié, voire écarté volontairement par nos responsables éducatifs et politiques. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. 90 voleurs sur 100 qui sont au bagne ne sont jamais allés à l'école une fois et ne savent pas lire les signes d'une croix. Et il concluait de cette phrase coup de poing : ouvrez donc une école et vous fermerez une prison. Voilà ce que je veux transmettre dans mes romans, ce que nous a enseigné le passé, ce que l'histoire nous offre et que nous dédaignons trop souvent et qui conduit aux catastrophes que nous connaissons aujourd'hui encore. On a un président qui est allé en Afrique, au Mali, il n'y a pas très longtemps, donner des leçons aux chefs d'État africains. Il leur a cité Hugo en disant « ouvrez donc une école ou fermerez une prison », mais dès qu'il rentre à Paris, il fait le contraire. Donc c'est ça, cette littérature militante, c'est ça mon travail d'ouvrir des lettres au quotidien, le rappeler constamment.
Merci. Alors merci pour cette autre belle conclusion. Je crois que nous allons nous arrêter là. Merci de votre présence et merci à vous trois vraiment pour cette table ronde d'un grand intérêt, d'une grande profondeur. Merci à vous.
Merci.